Ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs du studio Kalangou, pour le journal de 18h. Je suis Rukayat Abdraman. Les titres dans un instant. Les besoins humanitaires du Niger pour l'année 2019 ne sont financés qu'à 50%, a déclaré ce matin à Niamey la coordinatrice humanitaire par intérim des ONG exerçant au Niger lors de leur rencontre. Les tracasseries routières et le non-respect des protocoles d'accord par les agents de terrain ont conduit les syndicats des transporteurs routiers du Niger à déposer un préavis de grève de 72 heures à compter de minuit ce mardi. Aujourd'hui, la partie magazine Femmes et Bien-être est consacrée à l'importance du déparasitage chez l'enfant. Mardi 22 octobre 2019, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le plan de réponse humanitaire du Niger 2019 n'est financé qu'à 50% alors que les besoins des populations affectées ont augmenté depuis le début de l'année. C'est ce qu'a déclaré ce matin à Niamey la coordinatrice humanitaire par intérim pour le Niger à l'occasion d'une rencontre des ONG exerçant au Niger. Félicité Kimbinda sur les propos recueillis de Nafissatou Adam Sirfou.
Depuis le début de cette année, nous constatons une détérioration de la situation humanitaire et une augmentation des besoins des populations affectées. Malheureusement, cette augmentation des besoins ne s'accompagnent pas toujours des ressources requises pour apporter une réponse adéquate. Nous constatons qu'à ce jour, le plan de réponse humanitaire du Niger 2019 n'est financé qu'à 50% du budget requis. L'une des conséquences les plus évidentes de cette situation est illustrée par les inondations qui ont affecté depuis le mois d'août plus de 220 000 personnes, alors que le stock de contingence disponible était prévu de couvrir les besoins de 170 000 personnes. Cet excédent en termes de besoins n'a pas été suffisamment couvert à travers les stocks prépositionnés. Nous devons repenser nos modes d'intervention pour apporter l'efficacité tant recherchée dans la réponse humanitaire.
L'année 2019 a été marquée au Niger par une exacerbation des violences aux bandes frontalières ayant entraîné des flux croissants de réfugiés et de personnes déplacées internes. C'est ce qu'a indiqué ce matin à Niamey le représentant adjoint du HCR au Niger à l'occasion d'une rencontre nationale sur la planification humanitaire et le plan de réponse pour les réfugiés au Niger. Kourama Mamadi Fattah fait le point de la situation d'asile au Niger à la date du 20 octobre 2019. Il est au micro de Nafissa Adam Sirf.
À la date du 20 octobre 2019, le Niger accueille un nombre total de 442 449 demandeurs d'asile réfugiés, retournés et déplacés internes sur son territoire. À ce jour, le HCR compte 56 815 réfugiés maliens, 2190 Burkinabés et 68 044 déplacés internes dans les régions de Tawa et Tilaberi et accueillant 119 541 réfugiés nigériens et 29 954 retournés nigériens dans la région de Difa et environ 109 404 déplacés qui s'y trouvent dans la même région de Difa. Depuis mai 2019, le Niger fait face à une nouvelle urgence avec l'afflux d'environ 40 000 ressortissants du Nigeria installés dans la région de Maradi. Enfin, Agadez accueille actuellement 2091 demandeurs d'asile, la plupart ayant fui la crise libyenne et qui se sont installés dans le site humanitaire de Agadez.
Les syndicats des transporteurs routiers du Niger ont déposé un préavis de grève de 72 heures à compter de ce mercredi 23 octobre 2019 sur toute l'étendue du territoire. Les conducteurs protestent contre les tracasseries routières et le non-respect des différents protocoles d'accord par les agents de terrain. Les explications de Soumane Hassan, membre du bureau du syndicat démocratique des routiers du Niger, au micro de Moussa Hassan.
Le motif de grève, là, c'est par rapport au non-respect du policiers même, sur le protocole d'accord qu'on a réussi avec leur patron, ils ne respectent pas ça. Il y a les aires de pointe qui est trop. Un chauffeur vient, il quitte Cotonou ou Abidjan. Pour rentrer chez lui, c'est un problème parce qu'il faut à minuit pour qu'il n'a qu'à rentrer. On te sort de la douane à partir de minuit. Aller garer où tu vas décharger, il faut dormir là-bas. Les policiers nous tracassent beaucoup. Où il y a le contrôle, où il y a la sécurité, c'est la même. Chacun prend. Donc trop, c'est trop. La grève là, c'est tout le temps du droit du Niger. Les deux syndicats qui sont réunis se sont entendus et ils ont déposé cette mauvaise grève. C'est une grève de 3 jours, 72 heures. Hier, ils ont appelé nos deux syndicats. Bon, par rapport à certains points, ils ne sont pas entendus. Donc, il n'y a pas eu un consensus entre eux. Mais on attend aujourd'hui voir ce que ça va donner. Ou dans les cas échéants, vraiment, ce qu'on voit, la grève, ça va aller.
Grève toujours, les étudiants de l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG de Niamey étaient en mouvement d'humeur hier après-midi dans l'enceinte de leur établissement. Ils dénoncent le blocage des soutenances par les enseignants et la médiocrité de la restauration. Selon le secrétaire général des étudiants, la grève a été suspendue ce matin jusqu'au retour de mission du ministre de l'enseignement supérieur. Hamani Adamou Ali explique au micro d'Adama Dawaki.
Nous avons fait pratiquement près de 2 mois en train de manger le même plat. On nous donne ñebbe avec huile ou bien on te donne une façon couscous et l'administration nous dit de payer des pâtes qu'ils nous donnent sans sauce. Et ces pâtes sans sauce, on ne peut pas les payer du moment où le restaurant de l'EMIG est subventionné par l'État du Niger. Si l'administration et les autorités compétentes veulent que nous payions ces plats-là, il faudrait que ces plats soient des plats décents et que l'administration nous donne 3 plats par jour. Actuellement, les camarades n'ont pas fait de petit déjeuner parce que depuis la rentrée, on n'a pas de petit déjeuner. Et hormis cela, nous avons aussi beaucoup de problèmes tels que les soutenances de l'année académique 2007-2018 qui avaient été suspendues par les enseignants parce qu'ils étaient en vacances et que ces soutenances-là avaient déjà été ou préalablement bloqués par les mêmes enseignants parce qu'ils attendaient que les frais de soutenance de l'année académique 2016-2017 soient payés avant que les soutenances de l'année académique 2017-2018 commencent. Après le mouvement, ils nous ont appelés et nous avons pu trouver une solution. C'est de calmer les ardeurs un peu en attendant l'arrivée du ministre qui n'est pas là, qui est en mission.
Plus de 600 élèves des zones touchées par l'insécurité dans la région de Tillabéri sont privés de table bancs cette année selon l'Observatoire pour les performances de l'école nigérienne Open. Les élèves et leurs enseignants sont dans une situation qui ne facilite pas l'accès à l'éducation, précise El Hadja Mohamadou, coordonnateur de leur structure qui souhaite une solution définitive. Il est au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
C'est une situation de fait qui est là, une zone complètement insécure pour les enseignants, pour les élèves et les parents également. Il y a plus de 6 000 enfants qui sont dans la rue. Déjà que dans notre pays, on dit un peu plus de 50% des enfants ayant l'âge d'aller à l'école, et compris donc entre 6 à 15 ans, sont hors système éducatif formel. Et si le lot de toutes ces écoles qui ferment, on ne sait même pas quand est-ce que ça va réouvrir. Tous ces enfants vont venir gonfler ce lot-là. Face à cette situation, nous interpellons le président de la République et les ministres en charge de l'éducation pour que véritablement, très tôt, très vite, on puisse se saisir de cette situation et trouver une solution définitive.
Par un communiqué du 17 octobre, c'est un rappel, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a annoncé que des mesures seront prises à l'encontre des commerçants occupant des espaces où des actions de décurbissement ont été récemment menées. Et ce, pour des raisons de sécurité et du bon fonctionnement de l'administration publique. Les sommations ont déjà commencé, explique Mukhtar Mahamoudou au micro de Michel Dij.
Ça concerne surtout aux alentours des administrations et de certains lieux où le déguerpissement était surtout basé sur des raisons sécuritaires et de fonctionnement des administrations. Nos services, en tout cas, veillent à l'application de ces mesures. Toujours est-il que s'il y a des personnes, des commerces qui ont besoin de place pour leur activité, des services compétents sont là au niveau de la mairie, au niveau des arrondissements, pour leur donner de manière légale des places. Il faut que les gens prennent l'habitude d'aller vers le formalisme. Il n'y a aucune autorisation qui permet à X ou Y de s'installer à ces endroits. Il faut noter que nos équipes font des déplacements sur des terrains pour sommer ces personnes. On ne va pas brusquer les gens, on le fait quand même avec méthode, avec respect, avec discipline dans le dialogue avant d'agir.
La Direction générale des eaux et forêts du ministère nigérien de l'Environnement a initié la semaine dernière à Dosso la deuxième édition de la semaine de la restauration sous le signe de l'engagement à la mise en œuvre. Yacoub Seibou, directeur de la gestion des terres au ministère de l'Environnement, parle des thématiques qui ont été développées au cours de leurs travaux. Il est au micro de Aoussi Abdrahman.
Nous discutons, nous partageons des informations, comment les changements climatiques sont en train d'impacter le développement à tous les niveaux, d'impacter impacter les activités rurales surtout. Et maintenant, en tant qu'acteur du développement, chacun à son niveau, par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il peut faire, on essaie d'échanger quelles sont les meilleures manières pour accompagner nos communautés à renforcer leur capacité d'adaptation et de résilience. Les défis, c'est des défis de développement, des défis de sécurité. Bon, aujourd'hui, tous les problèmes que vous avez de sécurité alimentaire, de migration nationale et internationale, de sécurité même de nos pays, il y a une corrélation forte entre ces phénomènes de changement climatique, tous les défis qu'on affronte aujourd'hui. Parce que c'est des questions de développement, c'est des questions de gestion des ressources naturelles qui, du fait des changements climatiques, sont en train de s'aménager pendant que la population croît. Donc, il faudrait qu'on change de stratégie de développement à tous les niveaux. Il faut qu'on prenne en compte ces questions de changement climatique et mobiliser les ressources au niveau national et international pour renforcer les capacités d'adaptation et de résilience de nos communautés.
Après la campagne agricole, les producteurs de Tessawa ont commencé à engranger le fruit de leur labeur. Toutefois, certains se plaignent de vols et autres dégâts dans les champs. Afin de sécuriser leurs biens, le chef de canton de Tessawa appelle ses producteurs à enlever leur production des champs. Maman Mansour Kane Megizo au micro de Saïdou Sanki.
Nous conseillons les propriétaires des champs, tout celui qui a récolté les produits de son champ, qu'il les transporte chez lui pour les sécher, que ce soit le sésame ou tout autre produit d'espèce. Cela permettra aux producteurs de profiter largement de leur labeur, mais également nous et les agents de la force publique. Cela va nous réduire les jugements sur les plaintes qui nous parviennent tous les jours. Nous sommes tous conscients de la situation qui prévaut. Certaines personnes ne cultivent pas la tolérance. Par conséquent, il est nécessaire d'adopter une stratégie. Plusieurs plaintes nous ont été adressées sur le vol de bottes de mil, la cueillette frauduleuse du haricot, le déterrement des tubercules de manioc. Nous demandons aux producteurs qu'ils procèdent à la récolte des produits qui sont déjà mûrs et de les transférer à la maison. Nous n'accepterons plus que quelqu'un qui vole le bien d'autrui soit arrêté puis relâché.
Et puis la partie magazine de cette édition, les enfants en bas âge sont les plus vulnérables aux vers intestinaux, source de plusieurs maladies dont l'anémie et la malnutrition. C'est pourquoi à partir de 12 mois, un déparasitage de l'enfant est nécessaire deux fois dans l'année pour son appétit. Madame Sabo Zainabou Adama Maïga, pédiatre à la clinique Kwarkano de Niamey, répond aux questions de Hawa Ousmane.
Pourquoi est-il important de traiter les vers intestinaux chez les enfants, autrement dit le déparasitage?
Le déparasitage, comme son nom l'indique, c'est pour éliminer les parasites qu'on a au niveau du tube digestif, au niveau des intestins. Donc, pourquoi il faut déparasiter? Parce que ces parasites, le plus souvent, particulièrement chez l'enfant, peuvent entraîner une anémie. Et en plus de l'anémie aussi, ça peut entraîner de dénutrition, c'est-à-dire tout ce que l'enfant mange. Quand il y a les parasites, il ne peut pas y avoir une bonne réabsorption, parce que là, le tube digestif est infecté. Il faut déparasiter pour éviter l'anémie chez l'enfant et avoir un bon état nutritionnel. C'est pourquoi vraiment c'est recommandé de déparasiter les enfants au moins une fois tous les 6 mois.
Et comment se fait ce déparasitage?
Le déparasitage, ça dépend de quelle molécule on prend. On a deux formes de catégories de molécules. Il y a des molécules, c'est en une seule prise, et il y a d'autres molécules aussi où il faut prendre matin et soir pendant 3 jours. Donc ce qu'on connaît habituellement, c'est l'albendazole, qu'on prend une seule fois par jour. L'autre molécule qu'on peut prendre, c'est le mébendazole aussi. Et il y en a d'autres encore. Ce n'est pas les seules molécules, mais la plus courante, c'est surtout l'albendazole.
Quelle est la posologie? Comment se fait la prise des médicaments?
Chez l'enfant, ça dépend de 1 an à 2 ans. Au lieu qu'on prend le comprimé entier, c'est demi-comprimé qu'on donne lorsqu'il s'agit de l'albendazole. Et l'autre molécule aussi qu'on peut donner, c'est des cuillères mesure qu'on donne le matin et soir pendant 3 jours. Et après 2 ans, c'est le comprimé entier qu'on prend. Et c'est des dosages de 400 mg. Voire 600 mg, ça dépend de la molécule.
Et sur combien de temps ça doit se faire?
Il faut se déparasiter de tous les 6 mois tant qu'on est en vie. Mais chez l'enfant, on le fait presque systématiquement quand on les rencontre en consultation. Et je pense que même, on fait des campagnes aussi de déparasitage parce que vraiment, ça évite une carence auxquelles ils sont exposés. Vraiment, c'est très capital de faire ce déparasitage.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et au revoir.